premier invité donc de ces matins du samedi, un écrivain qui a toujours eu à cœur d'ancrer les intrigues du roman noir dans la réalité sociale et politique et qui se dit écrivain du social, héritier de la grande tradition littéraire du 19e siècle, de Victor Hugo et de la comédie humaine. Son roman, inspiré du 17 octobre 1961, quand la police française a jeté à la Seine des dizaines d'Algériens lors d'une manifestation pacifique, ce roman intitulé « Meurtre pour mémoire » l'a fait connaître du grand public voilà plus de 30 ans. Depuis, inlassablement, ce graphomane, puisqu'on lui doit une centaine d'ouvrages en tout genre, ausculte notre société avec son œil souvent bienveillant à l'égard des gens du peuple des banlieues qu'il connaît bien et critique à l'égard des pouvoirs et de ceux qui les détiennent. En 1997, il a publié Le goût de la vérité, où il retrace le parcours d'un intellectuel qui en est venu à banaliser la Shoah. En 98, ce fut par exemple Cannibale, dans lequel il raconte le sort réservé aux Kanaks lors de l'exposition coloniale de 1931. Pour leurs 40 ans, les éditions Verdier publient aujourd'hui un recueil de 76 nouvelles qu'il a écrites au cours des 40 dernières années. Il les a classées dans un ordre d'action chronologique. Ça va de 1855 à 2030. Et il nous offre avec ce livre 150 ans d'histoire de France. Bonjour Didier Daninx.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là avec nous. Le roman noir de l'histoire, c'est ce livre qui a donc paru aux éditions Verdier, qui fait plus de 800 pages et qui est en lice pour le prix Médicis Essai. C'est un peu aussi la rencontre de la série noire et du Collège de France, puisqu'il est préfacé par l'historien Patrick Boucheron. C'est quoi? C'est un bout à bout qui fait un tout?
Oui, c'est un petit peu ça. C'est un ami qui m'a alerté, qui m'a dit: est-ce que tu t'es aperçu que tout ce que tu as écrit en nouvelle, ça raconte deux siècles d'histoire contemporaine française? Et j'en avais vraiment pas conscience, parce que j'ai tout écrit.
Vous aviez écrit dans le désordre.
Dans le désordre et dans l'urgence, parce que il y a beaucoup de nouvelles qui sont les résultantes de demandes, une revue qui vous demande, qui vous donne un sujet seulement, et après vous avez toute liberté de traiter ce sujet. Et donc, d'un seul coup, ça papillonnait comme ça, et j'ai tout rassemblé. Alors il y en a 800 pages, mais j'en avais plus de 2000 pages au départ, et donc j'ai tout mis dans l'ordre. J'ai passé pas mal de temps à rechercher les fichiers, parce que on parlait de l'informatique et du monde moderne, mais les ordinateurs comme ça sont plus compatibles, donc j'ai fait tout ce travail. Et puis il y avait donc c'est plus de 2000 pages qui racontaient cette histoire, et j'ai fait une sorte de sélection en prenant les textes les plus percutants. Et puis je me suis aperçu qu'il y a pratiquement pas 3-4 ans sur 150-200 ans qui manquent à l'appel. Donc ça fait une narration, et une narration de non pas d'un roman national, c'est un terme que j'utilise pas, mais une narration comme ça, mais vue du côté des mutins, des rebelles, des gens de peu, pas du côté des stratèges et des gens qui sont coulés dans le bronze, quoi.
Est-ce qu'il y a une unité malgré tout quand vous avez relu ces nouvelles? Vous vous êtes aperçu que quelque chose ressortait du fond de vos écritures?
Complètement. La plus grande surprise, et pour l'éditeur aussi, c'est qu'il y a les textes ont été écrits sur 40 ans, et il y a une unité de style, c'est-à-dire que à aucun moment elles sont datées du moment de l'écriture, et on n'arrive pas à voir les nouvelles qui ont les rides de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans. Donc ça a été la plus grande surprise. Et puis toute une série de travail dans les nouvelles sur le montage, un petit peu les techniques cinématographiques comme ça qu'on retrouve, les techniques de collage aussi.
Elles sont pas mises bout à bout, même si c'est un bout à bout, Didier Daninx. Elles sont aussi divisées en 11 chapitres pour que le lecteur puisse s'y retrouver, classées par, justement, par ordre chronologique, mais avec des grands chapitres de l'histoire de France.
Voilà, oui, le premier.
De la Commune, du Front Populaire, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale.
Il y avait des scansions comme ça qui étaient vraiment, vraiment importantes. Cette première, ça aboutit à la Commune, mais avant, je voulais parler des proscrits, des gens qui ont dû quitter la France dans les années 1850, après la dictature de Napoléon III, puis le principal d'entre eux, Victor Hugo. Mais il y avait ça, et puis aussi cette période, au moment qui dépasse la Commune, qui aboutit un petit peu cette première période à l'exposition universelle de 1900, où il y a une confiance absolument démesurée dans la science, et une science qui va faire le bonheur des hommes. Donc on invente absolument tout, on invente les avions, Lyon, on invente absolument tout. Et la deuxième, c'est quand ce rêve se brise sur la guerre de 14-18, où tout ce qui a été inventé va être transformé en industrie de guerre. Le plus beau rêve des humains, c'est-à-dire voler comme ça les avions. Et d'un seul coup, on va creuser un trou dans le fond de l'avion pour faire passer des bombes. Donc, les deux premiers chapitres étaient ceux-là, puis en plus avec des clins d'œil, comment le premier c'est commun commune, et puis le deuxième c'est putain de guerre, et c'est un clin d'œil à Tardy qui a consacré l'essentiel de sa vie à creuser non pas les tranchées, mais à creuser sur la guerre de 14-18.
Alors c'est des drôles de nouvelles, parce que d'ailleurs le livre est en lice pour le prix Médicis Essai, et c'est intéressant de voir qu'il est classé dans les essais, parce qu'en fait c'est de la fiction, mais alors, cela dit, elles ne sont pas toutes fictionnelles, vos nouvelles. Parfois il y a des histoires vraies, de gens vrais. Par exemple, dans la préface, Patrick Boucheron écrit qu'il y a toujours une fraternité dans votre écriture entre imagination fictionnelle et opération historiographique. Et c'est ce qu'on ressent à l'écriture. Elles ne sont pas toujours des opérations de fiction.
Non, il y a eu ce besoin, parce qu'une partie de ce que j'ai écrit, sous la forme de nouvelles, c'était une manière de résoudre les énigmes familiales. Mes parents, mes grands-parents ont tous été confrontés à l'histoire. Ils sont vraiment rentrés même en collision avec l'histoire. J'ai un grand-père qui m'a élevé, qui a été déserteur, qui a vécu presque un an avec des faux papiers, qui a été condamné par le tribunal militaire du Cherche-Midi, qui a fait 2 ans et demi de travaux forcés après la guerre de 14-18. Et donc tout ça, c'était recouvert par le silence. Une partie de la famille refusait cet héritage. Et donc l'écriture m'a permis d'aller dans les archives. C'est-à-dire qu'à un certain moment, affronter le silence de sa propre famille, affronter le silence des siens, faut avoir une aide, une sorte de cadre. Et moi, la fiction a été cette aide qui m'a permis d'avoir le courage d'aller chercher, de discuter, d'interroger. Et donc j'ai mis 5-6 textes comme ça qui sont directement autobiographiques et qui permettent de montrer que tout ce travail que j'ai fait par le biais de la fiction sur l'histoire, c'était aussi une nécessité intime. Donc il y a les deux choses. Il y a le plaisir de l'écriture, le plaisir d'inventer, par exemple, sur 1917, à Moscou, un cow-boy qui arrive, donc et de mettre un Américain pris par la dynamique de la révolution russe comme ça. Donc c'est vraiment un plaisir d'aller chercher ce genre de choses. Mais il y avait aussi 5-6 énigmes familiales liées à la guerre d'Espagne, où j'ai retrouvé tout un tas de papiers de mon autre grand-père, qui était lui un maire bolchevique issu du Front populaire, et il y avait une partie de ses archives qui avait été répatriée à Moscou au moment de la guerre de 39-45, et personne dans la famille ne connaissait l'existence de ces archives, que j'ai réussi à récupérer. Donc ça donne aussi des textes, et ça donne une gravité aussi, c'est-à-dire que il y a ça aussi, l'enjeu et celui-ci aussi. C'est la manière dont l'histoire intime se délite, se perd, se fractionne, et comment à certains moments, dans les béances du silence comme ça, il y a des rumeurs qui naissent et des habillages pour frapper tel ou tel. Donc ça aussi, c'est important. J'ai vu que ce travail de recueillir l'histoire, d'être au plus près de ce qui s'est joué et tout, ça permet de redonner non pas simplement de la vérité, de la justice, mais aussi du bonheur de vivre, quoi.
C'est comment l'histoire intime se délite, mais comment également l'histoire collective se délite quand on lit les nouvelles au fur et à mesure que passe le temps. Peut-être vous allez me contredire, hein, dit Daninx, mais on a le sentiment d'aller du nous au je, beaucoup plus. Il y a un on ou un nous qui parle dans un ensemble collectif, dans, disons, la première moitié, voire les deux tiers de vos nouvelles et de donc ce roman noir de l'histoire. Et puis plus ça va, plus on arrive à quelque chose de plus individuel.
Oui, oui, mais ça c'est l'expérience que j'ai eue en tant que qu'écrivain. Il y a comment dans l'écriture, bon, ça fait une quarantaine d'années comme ça. Il y a un temps où on comprend pas. Moi, j'arrive dans ce milieu de l'écriture. Je suis le premier écrivain dans ma famille depuis l'époque des cavernes. Donc je connais pas les comment ça marche. Je sais pas ce que c'est qu'une maison d'édition. Je sais pas ce que c'est que la presse. Et donc on apprend et on voit les effets de sa propre parole, la parole écrite et puis la parole prononcée comme ça dans puis avec maintenant les réseaux sociaux, la manière dont ça agit sur les autres et la déperdition du sens aussi par les médias, par les réseaux sociaux, une chose que l'on dit et qui est comprise totalement à rebours. Donc il y a tout ça et sur 40, c'est pas assez 40 ans pour arriver à comprendre comment ça marche. Et à un moment, j'ai beaucoup plus le besoin aujourd'hui de passer à ma propre parole dans ce que j'écris. Donc le côté collectif que j'ai eu besoin, puis le côté familial, à un certain moment, j'ai besoin de faire la clarté aussi sur la manière dont tout ça m'a transformé, quoi.
C'est 40 ans d'histoire, mais c'est aussi 150 ans d'histoire de France. Vous projetez, Didier Daninx, dans le futur, puisque la dernière nouvelle se passe, si je ne m'abuse, en 2030. Est-ce que vous diriez que vous sentez un écrivain du 21e siècle, 2030, on est en plein milieu du 21e siècle, ou bien justement votre monde appartient à un passé qui est désormais révolu?
Il y a ça, il y a une image du chien andalou du film de Buñuel où le personnage essaye d'aller vers celle qu'il aime qui est au pas de la porte et il est obligé de traîner des cordes derrière. Dans les cordes, il y a des chevaux morts, il y a un piano, il y a des religieuses et tout. Et il est obligé d'aller vers elle avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il traîne comme ça. Et donc moi j'ai l'impression d'être encombré par l'histoire de ma famille, d'être encombré par l'histoire du 20e siècle, mais d'être pleinement en même temps dans le 21e siècle, mais de pas faire l'économie de tout ce que ce dernier siècle, celui d'avant, nous a transmis et nous a imposé aussi, parce que c'est le siècle, je parlais de la guerre de 14, c'est le siècle d'Hiroshima, c'est le siècle d'Auschwitz, c'est le siècle des massacres coloniaux et tout. Donc on a tout ce barda comme ça et on n'est pas dans la négation, la repentance et ainsi de suite. Il faut faire avec. Il faut vraiment faire avec tout ça. Et le 21e siècle, on le bâtira avec cette mémoire et avec les bribes d'enseignement qu'elle nous transmet.
Vous faites avec tout ça dans le fond, hein, dans les thèmes aussi qui sont abordés et qui jaillissent de certaines de vos nouvelles. Et puis vous faites aussi de cette façon-là avec tous les genres dans votre écriture, puisque je le disais, vous êtes un héritier de la tradition romanesque du 19e siècle, mais vous êtes aussi lecteur assidu du polar à la française, version Jean-Patrick Manchette, Jean Vautrin, Frédéric Fajardi, des polars qui ont pour personnages des ouvriers qui sont ancrés dans la réalité sociale. C'est peut-être ça, en fait, l'unité, la cohérence de votre écriture, c'est que c'est toujours ancré dans une réalité sociale.
Mais oui, mais comment le roman noir, tel que l'ont bousculé des gens que vous citez, Vautrin, Manchette, Fajardi, Jean-François Villard et d'autres comme ça, ça a été vraiment la continuité de ce qui s'est passé dans le grand roman du 19e siècle. Ça a été une forme d'intervention sociale, mais on n'avait plus cette naïveté encore de faire une comédie humaine et d'avoir l'ambition de raconter complètement le monde en 40 volumes avec 500 personnages. D'un seul coup, le siècle nous a imposé plutôt la forme du fragment, quoi. Donc il y a un petit peu ça. Et d'une certaine manière, ce recueil de nouvelles, c'est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que il y a un côté, il y a cette ambition, mais c'était une ambition non revendiquée, non dévoilée, et même pas dévoilée à moi-même.
Vous parlez d'intervention sociale, et pourtant vous dites « Je suis un écrivain affecté, nullement un auteur engagé ».
Ben oui, parce que le terme de l'engagement, c'est pareil, c'est le 20e siècle. Quand
c'est fini, ça.
Ben, quand on dit un auteur engagé, on pense toujours qu'il est engagé à gauche. Les écrivains comme Brasillac ou Céline, ils étaient fortement, fortement engagés, et engagés pour le pire. Et donc, il y a une ambiguïté dans cette formulation engagée. Puis en plus, moi, par la tradition, mais pas que du grand-père, comme ça, je suis assez antimilitariste, et le côté engagez-vous, rengagez-vous, ça me plaît pas trop. Et on a toujours un petit malin qui est du fond de la classe, qui dit, vous êtes un auteur engagé, engagé par qui? Donc il y a cette ambiguïté d'être au service d'une cause et non pas au service de la fiction, du roman. Donc j'ai des convictions, elles transparaissent dans ce que j'écris, mais à aucun moment, ça m'est jamais arrivé d'écrire des textes pour telle ou telle chapelle et ainsi de suite. Donc faut se dégager. Mais tous les écrivains ont été bloqués par ce terme engagé. Prévert, il disait, je suis un écrivain dégagé. Ce qui est pas, on n'arrive pas à comprendre non plus. Camus, il disait.
Camus avait du mal avec ce mot d'engagement.
Il disait, je suis un écrivain embarqué. Mais là aussi, embarqué, on peut être embarqué malgré soi. Donc, les termes, les codes barres pour l'écriture, ça marche pas.
Je vais pas vous demander donc par qui vous êtes engagé, Didier Daninx, mais par quoi vous êtes affecté.
Bah, je suis affecté par plein de choses. Là, les titres de l'actualité, quand on entend 39 corps dans un camion frigorifique avec une jeune Vietnamienne qui a payé, la famille a payé 35 000 euros pour le passage et le passage vers l'enfer. Donc ça m'affecte. Là, j'ai pris le périphérique pour venir ce matin. Je suis passé par la porte de la Villette, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers. Il y a 3000 personnes qui dorment là. Il y a 3000 personnes qui vivent dans des conditions absolument apocalyptiques. Mais c'est pas depuis 15 jours. Ça fait des années que les choses sont comme ça. Je suis affecté il y a quelques mois par le fait que l'argent de la Commission européenne, ça a servi à fabriquer des steaks pour les pauvres avec des morceaux d'os, de peau, de choses comme ça. Et ça a été servi à des centaines de milliers d'exemplaires pour les gens qui n'ont pas l'argent pour aller dans un rayon viande de supermarché. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'affectent. C'est Google et ainsi de suite qui s'immiscent complètement dans nos villes. J'entendais quelqu'un qui avait une réflexion vraiment intéressante sur ça, il disait ces sites, enfin ces plateformes, c'est de véritables états. Ils ont un endroit, ils ont un territoire, ils captent des milliards de personnes, ils ont une langue, parce qu'on n'écrit pas n'importe comment sur Twitter ou sur Google, ils ont une police, ils regardent un petit peu tout ça. Donc on est confronté à ça. Il y a les premières révoltes qui, je sais plus dans quel pays, où il y a eu l'augmentation d'une plateforme WhatsApp ou un comme ça.
WhatsApp.
WhatsApp. Et où il y a eu cette augmentation, et les gens, je crois que c'est au Liban, je crois. Et il y a des morts pour une augmentation sur ces choses. Voilà, il y a tout ça tous les jours. Il y a des raisons de dire que ça dysfonctionne et qu'on n'a pas les outils pour essayer de réparer les dégâts, quoi.
Et est-ce qu'on arrive, Didier Daninx, à s'extraire de ce monde-là pour arriver à écrire, un peu comme Alain Souchon qui va en hauteur pour regarder la France, pour se poser? Ou est-ce qu'on arrive à écrire affecté par tout ce qui nous entoure,
non,
comme vous l'êtes?
On arrive à... Il est affecté aussi en essayant de prendre de la hauteur. Moi, j'écris depuis en bas.
Depuis quoi. En bas, vous.
Depuis en bas. En hauteur. Mais il est affecté comme je suis affecté, mais on écrit avec ça.
Avec donc. Le monde qui nous entoure. Ouais. On n'essaie pas de se dégager de ce monde-là.
Non, la tour d'ivoire, moi je disais toujours, ça s'écrit la tour d'ivoire des... apostrophe Y, plus loin, voire VOIR. Donc la tour d'ivoire, c'est ça, ça pourrait être le titre pour Souchon.
Vous faites un travail d'écriture qui est un travail d'écriture photographique également. Vous êtes très très soucieux, voire amoureux de la géographie, de la toponymie aussi. Vous aimez beaucoup, alors là vous êtes vraiment dedans, vous aimez beaucoup vous immiscer dans les lieux où vous vivez. On va revenir d'ailleurs sur ces lieux où vous vivez, où vous avez vécu pendant 70 ans, où vous avez aussi enchaîné les boulots d'ouvrier avant de vous mettre à écrire, pour vous mettre à écrire ensuite, Didier Daninx. Vous restez avec nous donc, si vous le voulez bien, on vous retrouve d'ici 2 minutes, juste après les titres de l'actualité, puisqu'il est 7h30 sur France Culture. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. L'écrivain Didier Daninx est notre invité ce matin. Il publie un livre, une somme de 800 pages, recueil de quelques 76, allez, peut-être presque 80 nouvelles, écrites au fil de 40 années, qui s'intitule « Le roman noir de l'histoire ». De l'histoire, vous savez que l'histoire ne va guère sans la géographie. Même à l'école, on fait de l'histoire-géographie, Didier Daninx. Et vous, ça tombe bien parce que vous êtes un amoureux de la géographie. Comme Pierre Michon et Pierre Bargougnou, qui sont d'ailleurs aussi édités chez Verdier, qui fête ses 40 ans cette année, racontent la disparition d'un monde qui est un monde paysan. On pourrait presque dire que vous vous racontez progressivement la disparition d'un autre monde, le monde ouvrier ou peut-être le monde des banlieues, tel que vous les avez connus, tel que vous y avez vécu, puisque vous avez vécu 70 ans à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, et vous avez quitté Aubervilliers il y a quelques mois. Pas de gaieté de cœur, hein?
Ben non, c'était le déclencheur, j'aurais voulu y rester. Le déclencheur, ça a été les élections de 2014, où une partie des villes, un tiers, un quart de la Seine-Saint-Denis, se sont adonnées au jeu meurtrier du clientélisme à outrance. Par exemple, à Aubervilliers, pour reconquérir la mairie, la liste de gauche radicale a fait des alliances absolument incroyables. Par exemple, il y avait un type que je connaissais, qui était un dealer de cocaïne, qui est devenu un agent électoral, et tout le monde a eu la surprise après les élections de le voir nommé sans aucun concours, sans diplôme, à la tête d'un des principaux services de la ville. Et puis une semaine après, ce personnage a été arrêté par la police, tout simplement parce que il menaçait d'égorger un de ses voisins avec lequel il était en difficulté, en embrouille, et il était déguisé en guerrier de Daesh. J'ai l'impression de raconter le résumé du début d'un roman noir.
Oui, d'une de vos nouvelles.
Et,
oui.
Et ça, c'est Aubervilliers. Donc, quand vous en êtes là, comment que le clientélisme est parvenu à ce niveau-là. Après, il y avait une dizaine d'agents électoraux qu'il fallait embaucher. Et le directeur général des services, à l'époque, s'est opposé à ça. C'était un type vraiment très très bien. Il a été mis à la retraite d'office afin que les voyous puissent peupler les places enviées. Donc voilà, quand vous voyez ça, ça a des impacts directs sur la ville. La ville, d'un seul coup, s'effondre. C'est une ville où il y a 50% des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça n'a pas toujours été comme ça. 50%, c'est-à-dire presque 4 fois plus que la moyenne nationale. Il n'y a plus personne ne vote. Il devrait y avoir 55 000 inscrits sur les listes électorales. Il y en a 28 000. Sur les 28 000, il y a 6 000... Sur les 28 000, il y a 60% d'abstention, 60-70%. Ce qui fait qu'un maire est élu... Il représente 4% de la population. Il démissionne au bout de 18 mois, tellement les pressions sur lui sont fortes. Donc vous avez une déliquescence absolument complète. Il n'y a plus du tout de démocratie, d'espace de démocratie. Moi, le fait de dire les choses aussi brutalement comme ça, il y avait des ordres qui étaient donnés par l'administration communale pour que mon nom n'apparaisse plus du tout dans la prose municipale. Donc vous avez la censure qui s'applique obligatoirement.
Vous l'aviez raconté dans un roman, là, c'était une fiction,
Artana.
L'année dernière,
chez Gallimard.
Oui. Vous dressiez le portrait de la ville aux prises avec des barons de la drogue, vous montriez bien les liens, voire les complicités entre justement cette voyoucratie, l'administration communale, le personnel politique. Évidemment, vous changiez les noms, enfin, n'importe qui pouvait reconnaître.
Oui, c'était assez simple.
C'était assez clair, assez limpide. Donc, c'est une réalité, Didier Daninx.
C'est une réalité dans des villes comme Aubervilliers, dans des villes comme Bobigny, où Olivier Norek a écrit aussi des choses similaires. Vous avez une ville comme Noisy-le-Sec, où l'ex-premier adjoint a été Jean Bizet. Il s'est pris une rafale de Kalachnikov pour des histoires de pots de vin et de marché public. Donc c'est quelque chose qui n'est pas limité à une petite poche comme ça, une sorte de dérapage. C'est un département qui concentre un peu entre 40 et 50% du trafic de drogue au point de vue volume d'argent. Donc donc c'est peut-être 1,5 milliard ou 2 milliards d'argent sale qui circule. Donc voilà, il y a une puissance de la voyoucratie et à un moment, les partis politiques qui n'existent plus, ce ne sont plus que des façades avec du vide derrière, ils passent des accords avec les endroits où il y a encore une sorte de pouvoir et de détermination.
Mais ceux qui restent à Aubervilliers, alors vous le disiez tout à l'heure, vous n'écrivez pas de haut, vous êtes dedans, au milieu des gens, mais ceux qui restent à Aubervilliers ne vous en veulent pas d'être partis en se disant quand même que vous les avez abandonnés à votre tour ?
Non, parce que ça, 70 ans, ça fait un bail quand même. Et donc, ils ont bien vu que si je pars...
Vous n'y arriviez plus, quoi.
J'y arrivais plus. C'est-à-dire que le danger, c'était que ce sujet, qui est un sujet immense comme ça, devienne le seul sujet de mon écriture. Donc, j'ai un petit peu purgé les choses avec le roman Artana, Artana. Et maintenant, j'ai envie de me tourner vers d'autres sujets. Mais la ville vous impose... J'habitais en centre-ville, je sortais pour aller prendre mon pain et je rencontrais les responsables tous les jours, 5-6 fois je les croisais. Et donc vous êtes en face des responsables, de gens que vous savez corrompus, et ainsi de suite. Donc c'est une situation impossible.
Je vous ai laissé parler, du coup on n'a pas le temps d'écouter la musique que vous aviez choisie pour nous, c'est bien dommage, on la mettra sur notre page internet. Nassi El Alamo, c'était extrait de la bande originale du film Van Gogh de Tony Gatliff.
Ouais.
Merci beaucoup Didier Daninx d'être venu ce matin. Le roman noir de l'histoire, c'est paru aux éditions Verdier, vous serez le 6 novembre à la librairie Mola à Bordeaux, le 7 à la Colline aux Livres de Bergerac, partez en tournée quoi, hein. Là aussi je mettrai les dates bien sûr de votre tournée française sur notre page internet. Merci beaucoup à vous d'être venu ce matin. Il est 7h40.